Bien, bonjour à chacun, à chacune. Alors, on l'a déjà fait, mais je voudrais encore remercier tous ceux qui s'occupent des enfants, parce que c'est extrêmement important, on l'oublie souvent, mais le meilleur témoignage qu'il y a pour apporter la parole de Dieu aux enfants, c'est l'exemple des parents. Donc, quand j'entends Yolande demander un peu plus de régularité, je crois qu'il nous faut tous l'entendre parce que c'est ça qui donne envie à nos enfants de venir écouter aussi la parole de Dieu. Alors dans un des chants, il y avait ce refrain pour demander plus de foi, augmente-nous la foi. Eh bien on va voir aujourd'hui l'histoire de quelqu'un qui a aussi fait cette prière à Jésus d'avoir plus de foi. Et je vous invite à lire dans l'évangile de Marc d'abord, au chapitre 9, à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda : « De quoi discutiez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit : « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père : « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit : « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria : « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Et Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit : « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier : « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit : « Cette espèce ne peut sortir que par la prière. » Et puis un autre verset que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, une toute petite graine, vous diriez à cette montagne : « Transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ai-je vraiment la foi ? C'est une question que nous sommes tous posés un jour. Nous avons tous entendu, un jour ou l'autre, des prédications ou des remarques de frères et sœurs dans l'Église faisant ressortir notre manque de foi. Ou même, simplement parce que nos prières n'ont pas toutes été exaucées, comme nous le souhaitions. Et l'affirmation de Jésus dans Matthieu 17, 20, « Si vous aviez de la foi, comme un petit grain de moutarde, hein, vous diriez à cette montagne : « Déplace-toi pour aller là », elle le ferait. » Alors quand on entend ça, on se dit : « Vraiment, ma foi, elle est faible. Hein. Quel rapport peut-il y avoir entre une quantité infiniment petite de foi et une masse gigantesque de rochers, grande comme une montagne ? Et si une foi grosse comme une tête d'épingle suffit à déplacer une montagne, qu'en est-il de ma foi qui n'arrive même pas à déplacer le moindre petit caillou ? Les images que Jésus utilise sont des illustrations pour nous faire comprendre des vérités essentielles, mais ces images n'ont pas à être prises à la lettre. C'est ainsi quand Jésus dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, ou bien quand Jésus parle de la paille ou de la poutre que nous pouvons avoir dans l'œil. Est-ce qu'on peut avoir une poutre dans l'œil, hein ? Donc c'est bien sûr une image. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que la foi n'est peut-être pas une question de quantité. On ne mesure pas, on n'achète pas un litre de foie, hein, ou un mètre cube de foie. Si la foi n'était pas une question de quantité, mais plutôt une question d'orientation, de disposition de notre esprit. Et dans notre texte, on voit trois grandes parties. On voit d'abord Jésus face aux disciples, ensuite on voit Jésus face au père de cet enfant possédé, et puis on voit aussi Jésus face aux hésitations de la foi, au manque de foi. Alors Jésus face aux disciples. Jésus vient de vivre avec Pierre, Jacques et Jean l'épisode de la transfiguration. Et il redescend de la montagne, il y a une intervention miraculeuse de Dieu, mais en descendant, ils discutent entre eux théologie, résurrection des morts, qu'est-ce qui se passera à la fin des temps. Et toutes ces discussions ne sont pas d'aujourd'hui. Vous voyez, déjà, les gens sont préoccupés à l'époque. Et aujourd'hui, on voit aussi toutes sortes de commissions inter-ecclésiastiques, inter-églises, pour réfléchir à la bonne interprétation des textes bibliques sur tous ces sujets. Donc, c'est de ça que les trois disciples qui sont montés avec Jésus discutent en redescendant de la montagne. Et ils approchent des autres disciples restés en bas dans la plaine et ils les aperçoivent entourés d'une foule en pleine agitation. Et bien sûr, Jésus interroge les disciples et avant que l'un d'eux ait eu le temps de fournir des explications, une voix sort du milieu de la foule. Et cette voix, c'est celle d'un père de famille qui appelle au secours. Son enfant est malade et d'une maladie terrible causée par un esprit. L'enfant est muet, se jette par terre, de l'écume sort de sa bouche, il grince des dents, il devient tout raide. Alors aujourd'hui, les médecins parleraient d'épilepsie. C'est des signes caractéristiques d'une maladie qu'on connaît maintenant sous le nom d'épilepsie. Mais il y a d'autres maladies d'origine inconnue qui sont source d'inquiétude et de souffrance pour des parents aujourd'hui. En tout cas, pour cet homme, c'est une terrible situation. La maladie de son enfant, c'est sa montagne. C'est comme l'Everest qui envahit son horizon et qui lui bouche toute perspective. Et c'est une montagne qu'il voudrait bien pouvoir voir déplacée. Il voudrait voir son avenir se dégager et surtout voir son enfant vivre normalement, comme tous les autres enfants et pas comme un possédé. Et alors cet homme, eh bien, il compte sur ces gens dont il a entendu parler, qui ont, pendant quelque temps, parcouru toute la région, envoyés par leur maître, et n'ont-ils pas, par son autorité, chassé des démons, guéri des malades ? C'est une terrible responsabilité pour les disciples. Quelqu'un vient leur demander du secours. C'est eux qui recueillent dans leurs bras la souffrance des gens qui les entourent, et particulièrement de ce père. Et nous aussi, nous pouvons porter cette terrible responsabilité. Nous recueillons parfois la souffrance du monde qui nous entoure. On a déposé au cœur de notre conscience de disciple la maladie d'un tel, la déchéance d'un autre, la vie sans espérance d'un fils, la tragédie d'un couple qui s'entre-déchire, l'angoisse face à un chômage qui perdure et conduit à la fragilité matérielle. Ça peut être pour des gens dans l'Église, mais c'est aussi dans des gens de notre entourage, des collègues, des voisins. Alors c'est bien qu'il en soit ainsi. Non pas que la souffrance existe, mais que nous puissions être là pour partager, pour être solidaires, pour consoler. Notre rôle de disciple n'est-il pas d'être la lumière du monde ? Un phare dans la nuit qui guide les embarcations humaines en proie à la tempête vers le port, vers la maison du Père. Mais en même temps, quelle responsabilité ! Alors ce père de famille a donc vu juste. Il s'adresse aux disciples, il a frappé à la bonne porte. Il est attiré par ce groupe d'hommes dont Jésus a dit d'eux qu'ils sont la lumière du monde. Cependant, la voix de ce père exprime sa déception. « J'ai demandé, j'ai appelé. » C'est comme s'il avait dit « Au secours !» et il ne s'est rien passé. « J'ai espéré, et c'est l'échec. Ils n'ont pas pu. » Le père reste devant sa montagne, l'enfant dans sa prison, dans la prison de sa maladie. Et les disciples sont dépités. Ils sont obligés de reconnaître leur échec. Alors pourquoi les disciples sont-ils en échec? Est-ce que la montagne doit rester à la même place et continuer d'écraser ce père et ce fils? Jésus, contrairement à certains, et peut-être que nous serions capables de faire pareil, n'accuse pas le père de manquer de foi. Mais c'est justement à ses disciples que Jésus s'en prend, et même avec des mots très durs. C'est à ses disciples que Jésus dit « Peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Parfois, le Seigneur nous adresse des reproches à nous aussi. Et quelle est l'erreur des disciples? Eh bien, la réponse se trouve à la fin de notre texte. Pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser cet esprit? Et la réponse de Jésus met en évidence la lacune des disciples. Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. En fait, les disciples, ils ont voulu se débrouiller tout seuls, par eux-mêmes. Ils ont oublié de prier Dieu et de demander à Dieu d'intervenir. Donc, ils avaient été envoyés en mission par Jésus, ça a même été rappelé dans la première partie du culte. Et leurs exploits lors de leur voyage missionnaire, leur sont-ils montés à la tête? D'autres évangiles nous les décrivent à leur retour de mission, grisés par ce qu'ils ont pu réaliser. Alors, ils étaient contents. Ils avaient vu des miracles, ils avaient vu des démons qui leur obéissaient. Et Jésus est obligé de calmer un peu leur enthousiasme. Et dans Luc, nous lisons, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » En fait, Jésus freine un petit peu leurs élans. Et dans ce temps d'euphorie, les disciples se sont pris pour Dieu. Ils ont de la puissance, ils ont de l'autorité. Devant l'enfant qu'on leur a apporté, devant la souffrance d'un père, ils ont cru devoir se débrouiller tout seuls. Mais ils ont oublié qu'ils n'étaient que phares dans la nuit, que des exécutants sous l'autorité du maître et qu'ils n'avaient aucune puissance personnelle. Ils ont oublié qu'ils étaient tributaires du Dieu de toute grâce, au pied duquel ils auraient dû apporter cet enfant et son père. Et à ce niveau de formation, ils auraient dû avoir ce premier réflexe de la prière. C'est la leçon élémentaire de toute école de disciples. De là l'irritation de Jésus à l'égard de ses élèves si lents à apprendre. Si nous sommes appelés à recueillir la souffrance, le désespoir de ceux qui nous entourent, nous ne sommes pas appelés à résoudre seuls leurs difficultés. Nous sommes appelés à les accompagner, toutes ces personnes, vers le trône de la grâce, vers celui qui seul peut soulager, délivrer et guérir. Combien de fois avons-nous oublié de le faire? Combien de fois l'avons-nous fait avec si peu de constance et de persévérance, et parfois de conviction, que c'était comme si nous pensions pouvoir nous débrouiller tout seuls? Ne se situe-t-elle pas là notre incrédulité, dans notre volonté de répondre nous-mêmes aux besoins de ceux qui nous entourent, dans leur désir, finalement, de leur montrer ce que nous savons faire? Combien de fois aussi avons-nous promis de prier pour résoudre une situation difficile, sans pour autant inviter la personne à se rapprocher elle-même du Seigneur? Des gens nous demandent de prier, parfois pour eux, un petit peu comme si c'était, comme si Dieu était un distributeur automatique. Oh, il faut prier pour moi, il faut prier pour moi parce que je vais passer des examens, parce qu'un tel est malade, il faut prier. Et parfois, nous avons dit, oui, on va prier. Mais on aurait dû dire aux gens, approchez-vous du Seigneur. Ça ne suffit pas de prier, approchez-vous du Seigneur. Et sans la foi qui porte à Dieu et qui dépose à ses pieds les fardeaux de la souffrance, nous encourons la même remarque que le Christ a formulée à l'encontre de ses disciples. Alors ça, c'est Jésus et les disciples. Et maintenant, Jésus, face au père et au désespoir de cette famille. « Amenez-moi l'enfant !» demande le Christ. Or, qu'est-ce qui se passe ? Sa présence provoque alors une nouvelle crise intense. On a amené l'enfant au Seigneur et la situation est toujours la même. Rien n'a changé. Et lorsque nous apportons au Seigneur des situations douloureuses, ne nous est-il jamais arrivé de voir la situation non seulement ne pas s'arranger, mais parfois empirer ? Nous nous interrogeons alors, était-ce bien utile ? Nous avons prié, voilà le résultat. Le texte nous dit, dès qu'il vit le Christ, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. En fait, ce texte nous dévoile l'enjeu qui se trame dans les coulisses de l'histoire du monde et de notre propre histoire. L'apôtre Paul rappelle aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du monde céleste. En fait, notre combat, on n'est que des marionnettes. Le combat, il est ailleurs, entre Dieu et l'ennemi. Et l'apôtre Paul insiste auprès des Éphésiens en leur disant « Tenez ferme », soulignant que la bataille est parfois longue, rude, et surtout qu'elle ne se mène qu'avec l'armure de Christ lui-même. Alors la suite de notre récit est particulièrement émouvante. Le Christ instaure entre ce père désespéré et lui un dialogue. Jésus aurait pu guérir l'enfant tout de suite. Il est tout puissant, il pouvait le faire. N'y avait-il pas urgence à ce que ce drame cesse rapidement ? Il faut croire que les priorités de Jésus ne sont pas les nôtres. Elles peuvent nous surprendre, nous dérouter parfois. Si nous considérons la prière comme notre désir de marquer notre dépendance à son égard, comment ne pas respecter les choix de Dieu et ses priorités ? Comment, lorsque nous prions, ne pas reconnaître qu'il est celui qui guide notre histoire, qui a une sagesse parfaite, une visibilité sans faille sur notre avenir et sur nos besoins ? Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et la priorité de Jésus, pour l'instant, n'est pas de guérir l'enfant. Elle est de regarder ce père désespéré, de s'arrêter sur sa personne et sur sa souffrance. Et celui qui vient à lui, avec ce fardeau immense, sa montagne, le souhait que son enfant se guérisse, eh bien, ce père a beaucoup plus d'importance que son sujet de prière. Il est un être que Dieu aime. Et avant même de répondre à sa prière et de lui donner ce qu'il demande, Dieu veut entrer en dialogue avec lui, prendre en compte la globalité de sa vie. Dieu s'intéresse à nos vies et plus encore qu'à nos prières. Et alors Jésus pose à ce père une question qui semble dérisoire, qui semble sans intérêt dans la situation. Il y a un enfant malade, il y a un père qui est impatient de voir son enfant guéri, et Jésus lui dit simplement au père, dis-moi, depuis combien de temps ça dure ce truc-là ? Depuis combien de temps il est malade ? Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? La question n'a pas d'importance pour l'avenir de l'enfant. Il est là maintenant malade, il a besoin d'une guérison. Mais pour le père, cette question est très importante. Elle est essentielle. Par cette simple question, Jésus prend en compte le père et sa souffrance. Parce qu'en fait, il demande au Père, depuis combien de temps tu souffres ? Il prend en compte non seulement le moment présent, mais également la vie passée. Et en fait, par cette simple question, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? Jésus amène le Père à vider son sac. Car ce Père avait encore gardé au fond de lui-même des images, des souvenirs horribles, l'enfant se jetant dans le feu ou dans l'eau, son angoisse terrible de ne plus pouvoir récupérer son enfant en vie. En fait, par cette question apparemment sans importance, Jésus amène le Père à se soulager de sa douleur en l'exprimant, à livrer son désespoir enfoui. Le Christ nous accueille avec tout ce que nous avons caché au fond de nous-mêmes depuis tant d'années. Ces fantômes qui hantent nos nuits, nos journées, nos nuits, ces secrets que nous n'osons dévoiler à personne, En fait, Jésus est venu pour éclairer les soubassements de notre être, pour apporter son salut aux profondeurs de notre âme. Jésus est venu pour illuminer notre présent et notre avenir, mais également pour que nous puissions vivre avec notre passé. Jésus nous aime dans toutes les dimensions de notre histoire, et c'est là le sens du dialogue qu'il veut engager avec ce Père, par cette apparente question sans intérêt, depuis combien de temps cela dure ? Et en fait, le Père, poussé à repenser à tous ces événements douloureux, s'écroule devant le Christ. Parce que cette fois-ci, il ne prie plus en disant « Seigneur, viens guérir mon enfant ». Il s'adresse au Seigneur « Viens à notre aide ». Et ce cri révélateur, ce n'est plus seulement l'enfant qu'il présente à Jésus. Quand il dit « notre aide », il se présente aussi lui-même en disant « nous, c'est lui aussi ». Et le dialogue instauré par Jésus aura permis cette évolution. La souffrance de l'enfant était sa souffrance, l'emprisonnement de l'enfant était son emprisonnement, l'amour du Père pour son Fils liait leur sort. Mais là, par l'intervention de Jésus, il en prend conscience. Et parfois, dans nos familles, nous sommes aussi liés les uns aux autres, dans nos familles de sang, mais aussi dans notre famille spirituelle. En tout cas, le Père se rend compte que lui aussi a besoin de la grâce de Dieu. Viens à notre aide. Alors maintenant, nous voyons Jésus face aux hésitations de la foi. Parce que ce Père, il est un peu déboussolé. Il a souffert pendant des années. Il a demandé que les disciples guérissent son enfant. Ils n'ont pas pu. Et là, il se trouve devant Jésus qui s'empresse pas de répondre à sa demande, mais au contraire le fait réfléchir plus en profondeur. La demande doit encore mûrir. L'homme a besoin de prendre un peu plus la mesure de celui qui est en face de lui. Et sa demande pourrait se traduire ainsi, si tu peux faire quelque chose, tente-le. Le Père a tout essayé, alors une tentative de plus. Il est facile de reconnaître dans l'attitude du Père la démarche de nos contemporains, ou peut-être la nôtre. En quête de guérisons diverses, nous avons frappé à toutes les portes, essayé tous les remèdes. Mais lorsque nous venons devant le Christ, nous ne venons pas devant une nouvelle spiritualité, ou une nouvelle philosophie, ou une nouvelle technique. Nous venons devant quelqu'un, le Seigneur de l'univers, le Sauveur des hommes, le Tout-Puissant. Ainsi, notre prière ne peut plus être la même. Elle ne peut plus être simplement cette bouteille qu'on jette à la mer. Elle est une prière qui engage à croire qu'il peut tout. Et Jésus réoriente la question du Père. En fait, le problème n'est pas dans ce que je suis capable de faire, mais dans ta confiance en moi. Ce n'est pas du côté de Jésus qu'est le problème, c'est du côté du Père. Quelle est ta confiance? Qui crois-tu que je suis? N'est-ce pas la question préalable à toute prière? La souffrance, l'urgence de la demande nous font parfois perdre de vue à qui nous nous adressons. Nous sommes tellement obsédés par le poids de notre montagne, de notre souffrance, que nous demandons à Dieu une guérison ou une délivrance comme s'il n'était qu'un distributeur automatique de bénédictions. Et l'interpellation de Jésus amène le Père à crier ses limites. Il en vient à dire deux choses paradoxales. Il dit « je crois », puis en même temps il dit « je viens au secours de notre incrédulité ». « Je crois, mais je ne crois pas ». Autrement dit, il se rend compte qu'il veut bien croire, mais il n'a pas encore suffisamment de foi, il manque encore quelque chose. Et pour franchir le pas de la confiance absolue, il lui faut un miracle, il lui faut une aide d'en haut. Oh, il aurait été facile pour ce Père de faire semblant. Il aurait pu, comme certains personnages du texte biblique, repartir et renoncer. Et nous oscillons parfois entre ces deux possibilités. Le Père, lui, joue la carte de l'authenticité et de la foi. Une foi qui crie au secours pour pouvoir devenir une confiance absolue. La foi de ce Père n'est-elle pas à la hauteur de ce que Jésus attend de lui? La nôtre l'est-elle? Combien de fois avons-nous fait semblant de croire que pour lui tout est possible? Et combien de fois devant nos montagnes avons-nous prié « Seigneur, aide-moi à croire, Viens en aide à mon incrédulité. » Devant l'interpellation du Christ, ce père se sent démuni. Sa foi, il ne l'aperçoit pas plus grosse qu'un grain de moutarde, et encore. Mais ce grain de moutarde, il le dépose au pied du Seigneur et lui demande d'en faire quelque chose. « Aide-moi dans ma foi si petite, si faible. Fais quelque chose de ma confiance si fragile. » En fait, c'est la plus belle prière de foi, cette foi qui attend du Seigneur qu'il la nourrisse pour qu'elle grandisse. Et Jésus va opérer deux guérisons, celle de l'enfant, bien sûr, mais aussi celle du Père. Le Père était venu pour que son enfant soit délié, il l'a été, mais en priant pour son enfant, cet homme a pris conscience qu'il était aussi lui-même prisonnier. Ses liens étaient différents de ceux de son enfant, mais tout aussi entravants, paralysants. Alors pour conclure, je dirais que Jésus ne guérira pas toujours notre enfant malade ou notre propre maladie. Parfois, il permet que la souffrance reste. En tout cas, pas ici-bas, parce qu'au ciel, il n'y aura plus de maladie. Ça, la parole de Dieu nous le dit. Mais cela ne doit pas nous empêcher de lui demander dans la confiance absolue que sa réponse sera pour nous la meilleure. Le croyons-nous ? Le crois-tu ? Le Seigneur choisit parfois non pas de faire disparaître la montagne, mais de nous aider à la gravir. Et devant cette montagne, nous mesurons les limites de notre confiance. Doutons-nous d'y arriver ? Et si au lieu de faire semblant d'avoir confiance, ou bien de tourner le dos au chemin difficile que le Seigneur veut nous faire prendre, nous nous mettions à prier, à crier comme ce Père, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et alors, sans aucun doute, le Seigneur alors déplacera la montagne qui nous enferme dans nos tombeaux d'incrédulité. Ce ne sera pour chacun de nous rien de moins qu'une véritable résurrection avant l'heure. Amen.